Moi j'aime bien voyager, voyager intelligent. J'apprends les langues des contrées pour parler avec les gens. Hey.
Itinérance, une déambulation proposée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Pour parler avec les gens.
Bonjour, bonjour à tous. Joëlle Alessandra est dans notre studio pour parler d'un livre, d'un roman graphique qui s'intitule Dadji, de Dakar à Djibouti, à la rencontre de la grande initiative verte panafricaine. Bonjour Joëlle.
Bonjour Sylviane.
Et je suis désolée que Elodie Haro, la co-auteure, co-autrice, comment on peut dire ?
L'héroïne.
L'héroïne du livre ne soit pas là, mais elle est très occupée. Et pour la présenter, vous m'avez dit que c'est une sportive humaniste aventurière. Et vous vous êtes associée à ce projet de la Grande Muraille Verte. Avec beaucoup d'enthousiasme.
Bah oui, en fait, je me suis associé. On m'a gentiment présenté Elodie. C'est Arnaud Maladet-Mortier qui est un ami commun qui nous a présenté. Elodie connaissait déjà mon travail parce qu'elle avait un bouquin que j'avais fait sur l'Enedi, sur le désert de l'Enedi au Tchad. Mmh. Et Elodie, grande sportive, avait déjà fait un ultra trail. Alors, me demandez pas ce que c'est qu'un ultra trail, mais quelque chose d'assez éprouvant.
Oui, je crois que c'est au niveau du dénivelé d'altitude. Du nombre de kilomètres,
En tout cas, elle avait fait un ultra trail dans le même désert que j'avais parcouru et j'en avais fait un bouquin et elle avait ce bouquin chez elle. Mmh. Donc, quand on nous a présenté, elle me connaissait d'une certaine manière un petit peu. Voilà.
Alors, c'est vrai que vous êtes venu souvent à notre radio, Joëlle, pour des livres dans des directions très différentes. Le point commun, c'est le dessin.
Voilà. Bah, toujours.
Oui. Avec
et l'Afrique, peut-être aussi.
L'Afrique aussi, mais bon, vous voyagez partout dans le monde. Mais c'est vrai que l'Afrique, c'est votre terre de cœur.
Oui, alors particulièrement sur ce thème là qu'on a traité avec Elodie, qui est le thème de la Grande Muraille Verte et qui passe par tout un tas de pays. On en parlera peut-être un peu mieux tout à l'heure, mais des pays que je connais un petit peu, alors pas tous, mais je connais quand même beaucoup de pays subsahariens. Et c'était assez rigolo de se rencontrer autour d'une thématique qui évoque ces pays et qui en parle de manière aussi graphique. Hein. J'ai beaucoup de matériel dessus, donc voilà.
Alors, j'ai retrouvé dans ce livre que j'ai reçu avant la parution. Hein, il est en librairie le 2 avril. Hein, donc
absolument.
Notre émission est diffusée le 4 avril. On est dans l'actualité.
En plein.
26€ pour 224 pages.
Ouais, c'est donné.
C'est donné. Moi, j'ai retrouvé ces magnifiques bleus. J'ai retrouvé aussi ce café.
Café.
Mais il y a d'autres pointes de couleur, rassurez-vous.
Hein. Oui, bah c'est l'Afrique. On est très coloré quand même.
C'est l'Afrique. Alors, page 13, il y a le tracé, parce que bon, j'aime bien moi me repérer, je ne connais pas ces pays, et puis il y a 8000 kilomètres hein, de l'ouest en est, de Dakar à Djibouti,
absolument,
d'où le titre,
ouais.
8000 kilomètres, et puis en carte de couve, il y a la carte plus détaillée, parce qu'on se rend compte que Elodie n'a pas pu aller partout.
Hein. Oui, alors son trajet, alors c'est quand même un projet qui est quand même assez écologiste et écologique dans son application. Hein. La Grande Muraille Verte, c'est
planter des arbres.
Théoriquement, planter des arbres sur un couloir de 15 km, sur 8000 km d'ouest en est, donc de Dakar à Djibouti, en passant par le siège de la Grande Muraille Verte se trouve à Nouakchott, qui est la capitale de la Mauritanie. Mais le départ officiel qu'a fait Elodie et le départ de la Grande Muraille Verte, c'est Dakar. Donc de Dakar à Djibouti, en passant par le Burkina, le Mali, le Soudan et l'Érythrée, l'Éthiopie, pour terminer, voilà, d'un océan à l'autre, hein, c'est-à-dire de l'Atlantique à la mer Rouge, à l'océan Indien.
Valoriser en fait le pays, ce n'est pas que des arbres, c'est pas que de la
botanique. Non, alors effectivement, le vœu pieux, c'est de replanter pour arrêter l'avancée du sable, enfin du désert dans des pays subsahariens. Mais en réalité, on parle de beaucoup d'autres choses, notamment beaucoup de jardins, de planter des choses pour que les gens puissent se nourrir, de planter des essences d'arbres qui sont utiles à la population, comme des citronniers, comme des arbres qui servent des palmiers dattiers qui...
servent à se nourrir.
Voilà, qui servent à se nourrir et puis qui protègent un écosystème un peu particulier. Mais on parle aussi d'emploi. Donc, c'est quand même une approche assez sociale également, la Grande Muraille Verte. C'est un petit peu le... toutes les choses s'enchaînent. Si on a du travail sur place, pourquoi aller ailleurs? C'est-à-dire... on évoque les problèmes de migration également.
Les gens partent aussi parce qu'ils n'arrivent plus à survivre dans ces pays. Alors, il y a
évidemment
le contexte politique.
Les guerres civiles, il y a tout un tas de problèmes. Les migrations climatiques aussi, mais qui sont un petit peu liées finalement. Mais c'était une expérience... moi, j'ai eu la chance d'accompagner Élodie, de la rejoindre dans certains points, parce que je ne peux pas, comme elle, prendre un vélo. Alors ça, on ne l'a pas dit.
Son voyage, ça a duré combien de temps?
À peu près 2 années, puisqu'il y a eu des petites interruptions. Notamment le problème du Soudan, puisqu'elle s'est retrouvée, le Soudan est sur le tracé, donc elle devait le traverser, mais elle s'est retrouvée au Tchad en s'apercevant, en découvrant sur son téléphone, une fois qu'elle avait un petit peu de réseau, qu'il y avait une guerre civile qui venait d'éclater au Soudan. Et là, il était absolument hors de question de traverser ce pays. Donc, elle a dû rebrousser chemin et puis revenir en métropole, revenir en France et puis, ensuite reprendre le trajet sur l'Éthiopie.
On voit d'ailleurs le tracé sur la page 4, enfin la couverture.
Oui, la quatrième de couverture.
On voit le Soudan, il n'y a pas de tracé. Non. Alors, c'est vrai qu'on n'a peut-être pas insisté. Enfin, on a dit qu'elle était sportive, mais son objectif, c'était à vélo, à pied, à dromadaire, en bus.
Voilà.
En cas de un avion, parce qu'il fallait bien aller.
C'est difficile d'aller en vélo jusqu'en Éthiopie quand même.
Donc c'était aussi toute une aventure humaine et c'est un choix de vie qu'elle assume complètement.
Oui, absolument. Ça c'est vraiment.
C'est une reconversion.
Chose. Alors elle a eu des mentors, puisqu'elle a eu la chance de rencontrer des gens comme Pierre Rabhi, qui sont quand même les papas, c'est le père de toute cette agroéconomie, qui est d'une manière un petit peu sensée.
Début du livre, c'est la
c'est
page 11,
12.
Ouais,
oui, alors voilà. Elle a rencontré, avant de partir déjà, elle l'avait rencontré en Mauritanie, etc. Moi, j'ai juste, pour donner un exemple, il y a des choses, moi j'ai découvert énormément de choses avec ce voyage et au contact d'Élodie, qui est quand même une personne absolument époustouflante, parce que, comme on le dit...
Elle s'intéresse à tout, j'ai l'impression.
Absolument, et puis elle part quand même une femme seule, il faut se rendre compte de la difficulté. Une femme plutôt jolie, ça n'a rien à voir, mais quand même,
blanche,
qui traverse un continent à vélo, en chameau. En Afrique, on dit chameau, même si ce sont des dromadaires.
Elle peut provoquer la curiosité, mais aussi l'agressivité.
Elle
n'a pas souffert.
Ce qu'elle disait, c'est qu'elle a ressenti beaucoup de bienveillance des populations, des gens.
L'admiration.
Alors, il y a même une anecdote qui est citée dans le livre et qui est un bel exemple de cette... De cet exemple de bienveillance et de sympathie, d'accueil en tout cas, où un jour elle avait... c'est souvent en Afrique, on a des problèmes intestinaux, ça arrive. Et là, elle était sur son vélo, elle se sentait très sale, etc. Et puis elle arrive dans un village, elle essaye de trouver un endroit où se loger, parce que c'est un petit peu ça, elle bivouaquait beaucoup.
Il y a une part d'aventure.
Et là, rien n'est libre, aucun logement n'est libre, parce que par hasard, c'est un moment de pèlerinage dans la mosquée locale, qui est un lieu saint, etc. Donc, il n'y a aucun logement possible, elle est désespérée. Et puis là, il y a un jeune garçon qui est gardien de nuit et qui voit qu'elle est... Elle lui demande où est-ce que je peux dormir. Elle lui dit, mais non, tu ne trouveras rien. Mais par contre, moi, je travaille cette nuit, donc je te laisse mon logement.
Ouais.
Mais ça... On se remet dans la condition, nous, si quelqu'un venait à la porte à Nîmes ou à Uzès, est-ce qu'on accepterait? Et il lui laisse les clés de chez lui, et en lui disant que de toute façon, lui, il travaille cette nuit, donc il n'a pas besoin du logement.
Ouais. Donc c'est une aventure humaine aussi.
Absolument, mais essentiellement humaine. Mmh. Après, il y a tout un tas de choses très techniques aussi qui sont évoquées dans le livre. Et notamment, on parle des jardins de Touloukœur. Alors moi, c'était la première fois que j'entendais parler de ça.
Je ne savais pas.
Jardin Touloukœur, bah, c'est un jardin circulaire pour cultiver tout un tas de choses. Hein, un jardin potager, mais qui est irrigué par le fruit, l'eau des lombriques composteurs, donc beaucoup plus riche en nutriments. Après, il y a une manière de mettre des épineux, parce qu'en fait, les premiers problèmes pour les jardins, etc., en Afrique, c'est contrairement à ce qu'on pense, la première idée reçue, c'est l'eau.
C'est l'eau, oui.
Évidemment, c'est un problème. Mais les premiers soucis, ce sont les prédateurs. Les prédateurs, ce sont les chèvres, les cabris, qui viennent
bouffer. Oui, qui ont
bouffer,
envie de manger.
Qui ont faim aussi. Hein. Et donc, dans ces jardins Touloukœur, il y a une manière d'organiser,
de planter
de manière circulaire. Et puis, il y a une énergie dans le circulaire. Donc, il y a eu des épisodes absolument incroyables.
Ce qui explique aussi qu'il y a beaucoup de textes. On l'a présenté comme un roman graphique. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de textes, mais chacun le lit comme il veut. Hein. C'est-à-dire, il peut voir d'abord que les dessins, ensuite il peut revenir en arrière. Moi, j'aime bien lire en même temps. Hein. J'avance peut-être pas trop vite, mais j'aime bien comprendre un peu. Et là, on retrouve votre patte. Hein. Vous êtes Élodie, on a dit co-auteur, hein, tous les deux.
Oui, oui.
Un récit de Elodie Haro, le dessin et la couleur de Joël et Alessandra. Elodie vous a laissé libre de faire ce que vous vouliez au point de vue dessin, au point de vue mise en page.
Moi, je dirais, bon, la question, ce n'est pas posée. Enfin, c'est chacun son travail. On a travaillé vraiment de concert. Comme je disais tout à l'heure, il y a quand même un découpage de base qui est fait parce que justement, il faut qu'on sache quand même où on va. Hein. On est en bande dessinée ou pour n'importe quel livre. On a une pagination qui est quand même imposée. C'est-à-dire qu'on peut être sur du 120, 130 pages, 48 pages, etc. Nous, on avait il fallait pas qu'on dépasse 224 pages qui est un format imposé en bande dessinée pour une question d'impression de cahier et puis d'économie du livre aussi hein, parce que si on dépasse
Vous saviez au départ la proportion d'écrit et de dessin
alors plus ou moins, parce qu'en fait, en tout cas, les destinations, on les connaît, puisque les pays, le voyage était quand même préparé. Hein. On parle de... Là, je diverge un peu, mais on disait tout à l'heure en préambule que Élodie est une aventurière, mais c'est une aventurière sensée, raisonnable et précautionneuse.
Elle est consciente des
soucis qu'elle pourrait rencontrer.
Bon, puis je dirais qu'elle a des enfants, donc elle les laisse longtemps, mais elle sait qu'ils sont là. Hein,
elle fait attention
à elle.
Absolument, donc les destinations, on les connaissait, donc on a pu faire quand même un découpage. Mais après, ce qui se passe dans chacun des pays...
Il y a des imprévus,
mais c'est ça qui fait la qualité du récit aussi, puisque là, on parle de roman graphique, mais aussi de reportage dessiné, clairement.
Ah, j'aime bien ce terme de reportage dessiné.
Oui, c'est un genre.
Reportage, parce qu'on apprend beaucoup de choses. Je ne dis pas que dans les romans graphiques, on n'apprend pas grand-chose, mais reportage dessiné, je trouve qu'il y a le côté contenu.
C'est ça, et puis reportage, parce que Élodie...
C'est du vécu,
et puis surtout, elle m'a alimenté, notamment les destinations où je n'ai pas pu la rejoindre. On s'est vu en Mauritanie, Sénégal, le Tchad, etc. Mais il y a des pays que je connais très bien, comme l'Éthiopie, Djibouti, que j'ai pu documenter sans elle. Mais sinon, le Burkina ou le Mali, qui sont compliqués. Le Mali, on ne peut pas avoir de visa. Hein,
il fallait qu'elle vous fournisse des photos.
Alors, elle m'envoyait régulièrement, quand elle avait du réseau, via WhatsApp, sans faire la pub de WhatsApp, mais c'est un super outil. Hein, images, textes, des anecdotes, des choses, des extraits d'interviews qu'elle faisait au fur et à mesure.
Elle alimentait vos...
Voilà, parce que son boulot n'était pas que de faire un voyage simplement, entre guillemets, touristique, c'est-à-dire de partir d'un endroit ou sportif. L'enjeu, il était aussi d'apprendre plein de choses, de faire aussi, j'aime bien ce mot, de passerelle entre des savoir-faire, on va dire peut-être sénégalais, ou des habitudes d'agronomes, de paysans qui ont des habitudes de travail, des techniques, de faire passer ça peut-être à des Burkinabés qui ne savaient peut-être pas traiter telle chose.
C'est pédagogique. On sent une volonté pédagogique, hein, aussi bien dans le dessin que dans l'écrit. Et l'écrit, c'est à deux... J'allais dire à quatre mains, non à deux mains.
Oui, alors moi j'ai un petit peu remanié certaines choses. Élodie a repris pas mal de choses, notamment sur la technique, parce qu'elle a quand même une formation. Elle a travaillé dans la vigne, dans les oliviers. Elle a un savoir-faire quand même agronomique, en tout cas un savoir tout court autour de ça. Donc elle était quand même la caution morale de ce livre.
Oui. Ce qui explique des textes que certains pourraient trouver long, mais rien nous oblige à lire tous les textes.
Hein, non, bien sûr.
En même temps, on est pris dans la connaissance.
En fait, c'est un petit peu le but aussi, c'est-à-dire de sans être didactique, mais en tout cas d'être des passeurs. Voilà.
Oui, tout à fait. Alors, passeur, hein, sur 8000 km, bon, Élodie n'a peut-être pas fait 8000 km, hein, vu les conditions que vous nous avez expliquées, mais au moins 6000 km. Puis, il y a une sorte de fil directeur qui est la musique, et vous avez choisi bien sûr Balaké Sissoko. Il est le reflet
panafricaine, ouais, je dirais, c'est de jolis mots, ouais, parce que quand on écoute sa musique, en tout cas moi, je suis replongé dans ces aussi bien au Sénégal qu'en Centrafrique, qu'au Tchad. Enfin, pour moi, il est assez, il n'y a pas de frontières avec sa musique.
Oui, j'ai eu la chance de l'écouter en quartet, c'est magnifique, et puis ça fait connaître justement cette Corée, cet instrument qui s'adapte à la musique aussi occidentale.
Mais qu'en que nous faut d'arriver à aller et qu'en que nous faut. Mais qu'on a un gelou gelé. E quem que não for é diferente, e quem que não for. Mas imuna for, salimata for, jara ule for, ne kiri kono foyo, benita male, e quem que não for. Salimata fo Jara ule fo Ne kele kono fo nyo Beni tamale Ekenke nu fo.
Alors sur Radio Alliance Plus, nous retrouvons donc Joël Alessandra qui nous présente le livre d'Adji, de Dakar à Djibouti, d'où le titre, d'Adji, à la rencontre de la grande initiative verte panafricaine chez Futuropolis. Élodie Haro n'est pas parmi nous, mais vous en êtes son porte-parole, comme vous êtes le co-auteur donc, de ce livre. Et on avance un peu dans ce cheminement. Parlez-nous un peu de Futuropolis.
Futuro, c'est moi j'ai travaillé avec Esterman, Dupuis, Des Ronds dans l'eau, enfin tout un tas de d'éditeurs, et Futuro ça restait quand même pour moi une envie de travailler, parce que j'aime beaucoup les livres qui publient. Mon éditeur c'est Sébastien, notre éditeur avec Élodie, c'est Sébastien Gnedig, que je connais depuis très très longtemps et à qui j'ai envoyé des projets, je sais pas, ça doit faire 20 ans que j'envoie des projets chez lui, et à chaque fois c'est non, c'est passé.
Donc
bon,
voilà, etc. Avec Élodie,
c'est super. Et non, je suis très très content parce qu'ils font quand même un travail de livres entre guillemets un petit peu engagés. En tout cas, ils sont porteurs de messages, et ça c'est précieux.
Oui, parce que quand je vous écoute, c'est botanique, c'est solidaire, c'est humanitaire, c'est l'avenir de la planète, c'est un petit peu les défis personnels, hein, parce que elle doit être en très bonne santé, ou alors elle est très dur au mal, là, je ne sais pas.
Non, mais elle s'entretient, parce que moi, j'étais, donc comme je disais peut-être tout à l'heure, j'étais dans le Ciné Saloum avec elle pour découvrir la mangrove, voilà, et puis elle me dit, on y va en pirogue, on y va en canoë, ou mais t'es sûr. Et donc on s'est fait la mangrove d'abord un petit peu en canoë, et puis je la voyais faire des exercices sur la plage, tout ça. Non,
c'est une vraie... On fait pas cette aventure à vélo, à pied, en dromadaire, enfin en chameau, puisqu'en Afrique, on dit chameau, sans avoir un entraînement physique. Elle en a retiré quoi, elle, de ce voyage maintenant? Ça lui a pris pratiquement 2 ans, de 2022 à 2022-2023. Elle en a retiré quoi? Comme une sorte de défi qu'elle a réussi, ou au contraire une mission pédagogique, ou un peu tout?
C'est très difficile. J'ai peur de...
Parler à sa place.
Répondre à sa place. Et, je pense qu'effectivement, c'était un challenge qui était quand même assez risqué, et puis assez surtout, est-ce que je vais y arriver? Et elle peut être fière de ce qu'elle a accompli quand même. Hein. Elle peut être vraiment fière d'un océan à l'autre.
Vous aussi, vous l'admirez.
Je crois que personne ne peut nier sa force mentale,
son
engagement, sa détermination, et puis aussi il y a une espèce de croyance dans les valeurs humaines,
certain espoir. C'est vrai que c'est difficile actuellement d'avoir de l'espoir dans la situation actuelle.
Mais je crois que quand on se promène dans ces régions et qu'on voit comment en local, je ne parle pas des ONG, je ne parle pas des Nations Unies, je ne parle pas de l'agence de la Grande Muraille Verte, ou même on a eu la chance au Sénégal de rencontrer l'ancien ministre de l'Environnement qui s'est fait virer parce qu'il ne faisait que des bonnes choses et qu'il n'était pas corrompu. Et on a eu cette chance de voir ce monsieur charismatique, etc. Quand on voit et qui disait justement tout cet argent qui est dépensé pour rien, alors que localement on peut faire des tas et des tas de choses, et c'est vrai qu'en voyageant, qu'en allant sur le terrain, on se rend compte de la bonne volonté, de l'intelligence, de la volonté de faire des choses bien. On a rencontré à un moment donné un paysan, c'était absolument incroyable, qui faisait des expériences avec des agrumes, et sur le même arbre, il y avait une orange, un citron et puis un troisième agrume, je ne sais pas, qui poussait sur le même arbre, une branche chacun. Donc ils ont des techniques, ils ont tout un tas de choses.
Mais c'est en ça qu'on peut tout de même avoir des lueurs d'espoir, disons, on essaie et puis la nature s'adapte, et puis non, c'est vraiment passionnant.
Et puis au niveau humain aussi, moi j'ai rencontré des groupements de femmes qui s'associent en association pour développer des jardins, pour avec chacun des savoir-faire, donc on peut être que enthousiaste, et on peut être que admiratif de tous ces gens qui se mettent vraiment au travail sur des choses
au service de l'avenir humain.
Absolument.
Alors je retrouve bien votre patte là dans ces pages, puisque il y a vos fameux bleus, vos fameux cafés, et il y a Élodie qui a toujours un turban sur la tête, toujours vert, enfin pas toujours, là je vois qu'il est rouge, mais c'est pour l'identifier
Que c'est pas lui en fait.
C'est
pour ça.
Voilà.
Non, oui,
j'ai regardé trop vite.
C'était rigolo parce que Élodie me disait elle est, évidemment c'est pas son métier, la bande dessinée.
Mais on identifie l'héroïne.
Voilà, c'est ça. Et elle me dit oui, mais tu me fais habiller toujours pareil sur 2 ans de voyage quasiment.
Elle n'est pas en robe du soir, elle n'est pas en talon aiguille.
mais c'est effectivement un petit truc de dessinateur. Elle avait toujours un chèche, c'est dur à dire à la radio, un chèche sec, mais qui avait différentes couleurs, etc. Ça, c'est nécessaire pour la poussière, pour les pistes, etc. Mais moi, j'ai décidé de le faire vert. Qu'elle l'ait vert tout le temps. Et par contre, ce qui est pas inventé, c'est que son vélo est vert. Et c'est vraiment un vélo qu'elle a trouvé à Nouakchott. On appelle ça les arrivées, je sais plus. Enfin, où il y a tout un tas de bric-à-brac qui vient des rebuts de la France et d'Europe. Et là, il y avait un vélo vert qu'elle a retapé un petit peu, et avec lequel elle a entrepris son périple. Elle est tout au long de la bande dessinée avec un vélo vert et un chèche vert. Voilà.
Alors, je retrouve vos pattes avec vos petits croquis faits sur place, parce que après, vous l'avez travaillé, bien sûr, votre livre, mais vous y avez joint ces petits... Vous êtes un spécialiste du carnet de voyage. Et là, on sent que ça a été fait sur place.
C'est une petite marque de fabrique. C'est-à-dire que j'aime bien maintenant, et notamment sur les livres qui parlent de voyage, bien sûr. Moi, j'ai beaucoup de mal à faire des livres sur des voyages où je ne suis pas allé. Alors, j'en ai fait, et puis j'en fais. Je privilégie quand même... c'est difficile de dessiner un endroit quand on n'a pas senti l'atmosphère de l'endroit. Pour moi, pour moi. Et du coup, c'est vrai que j'utilise tous ces dessins-là qui me servent ensuite à travailler à l'atelier, à faire des planches, des doubles pages en couleurs beaucoup plus élaborées. me servent énormément. Mais quelquefois, et de plus en plus d'ailleurs, je m'en sers directement dans les ouvrages. C'est-à-dire que je les scanne et je les
vous
plaque,
les intégrer,
je les intègre à la mise en page du livre.
Je trouve que moi, enfin personnellement, ça me fait une respiration dans la lecture, comme une pause, parce que quelquefois on veut savoir un peu la suite. Et là, on est obligé de se poser. Donc, toute votre patte personnelle. Et vous avez parlé justement là maintenant des doubles pages. Là, c'est un peu votre marque aussi. Hein. Vous aimez bien. Enfin, le découpage n'est pas toujours pareil. Et ces doubles pages, ça vous fait très plaisir.
Ben, moi, j'adore, oui. Et puis, c'est aussi un confort de lecture. On parlait tout à l'heure de la densité de texte. On a besoin de ces pauses graphiques de temps en temps où il y a un petit peu moins de texte qui est intégré dedans, un petit peu moins de vignettes.
Oui, une respiration.
Et puis, ça donne du rythme, surtout. Hein. On a des planches qui sont assez fournies en vignettes où on peut avoir 8 vignettes ou 6 vignettes par page. Et puis, certaines où on en a que deux, certaines trois. Et ça, c'est vraiment quelque chose... je fais très attention à ça pour donner du rythme au livre et pas être assez systématique. Alors, on a des illustrations quelquefois qui passent sur une double page et puis qui ensuite reviennent sur une seule, du croquis, des dessins détourés. En fait, j'essaye de donner un petit peu de rythme
là,
à tout
c'est,
ça.
Là, c'est l'expérience du dessinateur de bande dessinée. Là, hein,
je pense, j'ai dû faire une trentaine de livres maintenant, un peu plus d'une trentaine. Donc, je commence
et puis,
à avoir
dans
un
des,
peu
comme je disais au début, des sujets très très variés, hein, du livre sur fleurs, sur la maladie.
La neurofibromatose, oui, tout
voilà,
à fait.
Donc, puis d'autres très très différents. Vous cantonnez pas dans un seul sujet. Et là, vous avez bien sûr d'autres projets. Comme je vous connais, vous ne pouvez pas rester sans. Donc, quelles sont les actualités de la fin d'année, Joël?
Alors, on a encore d'autres livres dans les cartons, hein. Il y a d'autres choses. Il y a évidemment Carnet d'ailleurs avec le magazine qui continue.
En abonnement. 4 numéros par an.
Tout à fait. J'ai une actualité chez Daniel Maguen avec qui j'avais fait Le Voyageur il y a 2 ans, je crois. Et là, c'est un voyage avec Rimbaud qu'on va faire. Quelqu'un que j'apprécie énormément. Mmh. J'adore les poèmes, mais j'adore aussi sa vie puisque c'est là on parle de Rimbaud
en Afrique
de l'Est et on est à Djibouti, Tadjoura, Obok, et on parle un petit peu de Soleillet. Il y avait une exposition à Nîmes,
au Carréda.
Voilà, et donc je me rapproche de lui, je suis dans ses traces, dans ses pas, au Harar, à Diredawa, à Djibouti, à Obok,
sur
etc.
place, bien évidemment.
Évidemment,
en voyageur.
Voilà.
Dessinateur voyageur, je crois qu'il faudrait vous dire.
Et puis un autre sujet aussi en octobre, là, ce sera chez Des Ronds dans l'eau, où là, je vais parler de PMA avec une scénariste qui raconte sa propre expérience, son parcours du combattant
pour avoir un enfant,
voilà. Donc c'est un autre sujet, comme vous dites.
Mais ça fait votre personnalité, vous vous ennuyez jamais.
Non, c'est
et puis, en même temps, vous apprenez plein de choses, hein, puisque là, vous parliez des jardins, de la botanique, là, vous apprenez sur la PMA. Donc, vous comblez tous vos désirs de curiosité. Bien, merci beaucoup, Joël Alessandra. Merci aussi, même si elle n'est pas présente, Élodie Haro. Sans qui ce livre n'aurait pas existé.
Il n'aurait jamais existé.
Et à bientôt pour d'autres projets. Merci Joël.
Merci Sylviane.
Avec les gens.